Garde voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, alors qu'une partie de l'aviation mondiale est au ralenti, que le tourisme est l'un des secteurs les plus sinistrés par la pandémie, si on prenait le temps de se demander que reste-t-il de nos voyages ? À quoi sert de voyager ? À découvrir l'altérité ? À fuir sa propre réalité ? Comment un séjour à l'étranger peut-il finalement modifier notre vision du monde? Nous allons en discuter avec notre invitée en ligne au Canada. Bonjour Marie-Julie Gagnon.
Bonjour.
Vous êtes une auteure canadienne, vous êtes journaliste, vous avez créé notamment le blog Taxi Brousse consacré aux voyages et vous publiez « Que reste-t-il de nos voyages ?» Un livre si bien nommé en ce moment, publié aux éditions de L'Homme. Il existe finalement autant de raisons de partir que de voyageurs. Et vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe quand on voyage. Et on va poser aussi cette question à David Medioni. Que se passe-t-il quand on voyage plus lentement, en train? Vous êtes même allé jusqu'à Bruxelles, en train.
Même
soyons
jusqu'à
fous.
Bruxelles.
Bonjour David Medioni.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez publié vos réflexions sur ce mode de transport doux. Être en train, édition de l'Aube. Vous avez aussi fondé un magazine littéraire en ligne qui s'appelle Ernest. Et puis en fin d'émission, reportage, Raphaël Constant a rencontré Luc Barreto, ex-technicien de maintenance dans des hôtels palaces. Il s'est reconverti en libraire itinérant en Seine-Saint-Denis, ardent militant de la lecture pour tous. Son engagement prend tout son sens en ces temps de pandémie où la lecture fait aussi voyager et se porte d'ailleurs très très bien.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour qu'on n'en forme qu'un seul.
Et nos auditeurs, bien sûr, aussi se manifestent sur la thématique du voyage. Abdoulaye est à Mbour, au Sénégal, et il dit « Une langue de chez moi dit « La personne qui ne voyage pas ne saura jamais où il fait bon vivre ». Oui, ben on peut aussi dire « L'herbe est toujours plus verte ailleurs hein, ». Mais Nono est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il nous dit « Moi, j'aime les voyages, et si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Malheureusement, je n'ai pas d'argent, si je me contente quelquefois de faire des excursions à l'intérieur de mon pays, la RDC, qui est 8 fois plus grande que la France quand même, et qui est un pays absolument magnifique, je peux en témoigner. Et puis il y a aussi ce message qui a été posté sur notre compte WhatsApp.
Bonjour, à défaut de voyager ou bien de pouvoir se transporter dans d'autres endroits du monde, on peut découvrir d'autres civilisations, d'autres personnalités, d'autres récits, d'autres anecdotes qui peuvent nous mettre en contact direct avec d'autres peuples, etc. etc. La lecture, sinon l'information, les réseaux sociaux aussi, la magie des réseaux sociaux, entre autres. Autant de manières, autant de façons qui remplacent le voyage, l'itinéraire, tout ça.
Ouais, peu importe l'endroit où on va, finalement, tout réside dans le chemin. Et ce chemin peut aussi être en imagination. C'était un message de Baldé qui est à Dakar. Marie-Julie Gagnon, David Medioni, vous tous les deux, comment vous vivez cette relative immobilité mondiale depuis la pandémie, Marie-Julie Gagnon ?
Ah mon Dieu, il s'est passé pas mal de choses en une année quand même. Il y a un an précisément, en date d'aujourd'hui, je quittais Singapour vers Bangkok en train. Moi aussi, je suis une grande adepte de voyage en train pour un reportage. Et j'ai l'impression d'avoir un peu vécu le futur à l'époque parce que Singapour, tout le monde avait déjà les masques. On voyait déjà plusieurs attractions touristiques fermées. Donc, il y avait déjà toute cette atmosphère-là qui m'a mise un peu dans le bain, disons-le comme ça. Par la suite, la compagnie avec laquelle je suis partie en train a cessé d'opérer pendant quelques mois. Mais bref, oui, je pense que en ce moment, disons que c'est une période de ralentissement forcé pour tout le monde qui nous force aussi peut-être à réfléchir un peu plus à nos façons de voyager.
Mmh. Vous avez bougé de Montréal depuis sur ces derniers mois, Marie-Julie Gagnon?
Nous, les frontières sont fermées pour à peu près partout. Bon, après, il faut voir aussi où on était admis.
Sauf pour raison professionnelle, hein.
Oui, tout à fait. Mais même pour raisons professionnelles, moi, j'avais pris la décision aussi d'attendre, de voir comment les choses allaient se dessiner. Puis comme j'écris sur le tourisme, le voyage, autant d'un point de vue d'actualité que touristique, des récits, tout ça, je me suis dit que j'allais attendre un peu. Mais même à l'intérieur du Québec, on nous demande de rester dans nos régions respectives en ce moment. Donc, c'est pas simple de voyager et c'est pas recommandé. Donc, je vois pas pourquoi on ferait en sorte d'aller compliquer un peu tout ça en prenant le risque aussi d'amener un virus dans nos bagages qu'on n'a pas souhaité amener avec nous. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi qui se sont posées au cours de la dernière année, au-delà de sa propre envie de voyager, je pense.
Alors, on en profite pour regarder dans le rétroviseur. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager, David Medioni, vous prenez le train masqué en France ?
Oui, je prends le train masqué. Je prends à peu près le train deux fois par mois, deux fois chaque mois pour des reportages, pour différents reportages un peu partout en France. Le train masqué, moi, ça m'a rendu triste et en même temps on a réappris à se regarder. Je trouve que les regards sont différents dans les trains masqués. Les regards sont encore plus complices entre les voyageurs et finalement effectivement on peut pas voyager à l'étranger. Moi il y a un an à peu près jour pour jour j'étais à Cuba et quand je suis rentré à Paris en fait j'avais pas pris conscience qu'on en était à ce point-là de la pandémie. Donc effectivement j'ai pas voyagé à l'étranger depuis plus d'un an aujourd'hui et que malgré tout avec les trains, avec les voyage en train que je fais chaque mois. En fait, je voyage en observant mes congénères de voyage, mes frères et sœurs humains qui voyagent avec moi dans le train. Et finalement, c'est aussi un voyage parce que c'est un voyage en nous-mêmes et un voyage avec les autres.
Mmh. Un train sans wagon-bar à cause de la pandémie, est-ce que c'est encore un train finalement si on n'a plus aucune raison de quitter son siège sauf pour aller aux toilettes ?
Écoutez, c'est ce qui est marrant dans le train Covid, c'était très rigolo, c'est que chacun et chacune met en place des petits stratagèmes pour pouvoir enlever le masque. Donc il y a beaucoup de gens qui boivent beaucoup d'eau, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de déplacements pour les toilettes. Les toilettes sont très encombrées dans les trains Covid. Après, c'est vrai qu'il se passe...
Ou qui mangent pendant 2 heures, c'est ça aussi.
Qui mangent pendant 2 heures, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le bar est un lieu de vie important dans le train qui nous manque aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours un voyage en train ? On va dire que c'est un voyage en train... déprécié un petit peu, je dirais.
Vous avez le sentiment, tous les deux, que c'est un peu le début de la fin du tourisme et du voyage, Marie-Julie Gagnon, ou pas ? Il y a quelque chose qui va... Il y aura un après sur le plan du voyage ?
Mais c'est intéressant parce que je pense qu'au cours de la dernière année, nos pensées ont changé, ont évolué aussi sur cette question-là. Au départ, moi, je me rappelle très bien, je me disais, oh mon Dieu, est-ce qu'on va devoir faire notre deuil des voyages? Et là, ça venait avec toute une série de questions et surtout un sentiment de, comment dire, une grande gratitude aussi d'avoir eu la chance de faire tous ces voyages-là dans le passé. Maintenant, est-ce que ça va changer durablement nos façons de voyager? S'il y a des choses quand même positives, hein, je pense qu'il faut tirer de ça. Je pense qu'on va être peut-être un peu plus conscient de nos propres microbes. Combien de fois on a vu les gens tousser dans tous les sens, éternuer dans les avions. Peut-être que le masque va peut-être se démocratiser, rester un peu dans les moyens de transport au long cours, on verra. Je pense qu'on va peut-être aussi avoir envie de voyager plus lentement, justement, parce qu'on va être plus conscient, on va avoir eu le temps, on va avoir une année pour réfléchir à ce qui est important pour nous. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à voyager à un rythme aussi effréné? Je pense qu'au-delà des considérations pratiques, il va y avoir aussi des questions philosophiques un peu plus sur notre envie d'explorer le monde au même rythme qu'avant.
Oui, finalement, David Medioni, vous étiez tout à fait visionnaire avec votre livre « Être en train » parce que les Français ont redécouvert leur pays, la France.
Oui, c'est sur ce point-là, est-ce qu'on va voyager différemment ? Je pense qu'on va voyager peut-être moins et on va peut-être mieux voyager, en tout cas je l'espère. Je pense qu'on va faire peut-être moins de voyages, mais des voyages peut-être plus responsables. Ensuite, sur le train, c'est vrai que les Français ont repris le train, ont redécouvert leur pays. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de hashtags autour de la beauté de la France, la beauté de ce pays. Et moi, ça m'a fait penser, enfin, je trouve que ça a beaucoup résonné avec la phrase de Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis qui est peuplé de gens qui pensent qu'ils vivent en enfer ». Et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé cette année. On a redécouvert qu'on n'avait pas besoin peut-être d'aller à l'autre bout du monde pour voir un beau paysage. Alors après, ça pose aussi la question de savoir si ça va nous enlever quelque chose de ne pas aller au bout du monde. Je pense que ça nous enlève quelque chose de ne pas voyager, de ne pas aller à la découverte de l'autre. Mais peut-être qu'on va trouver une sorte de voie médiane entre ces choses-là.
Toute la question est de savoir si on ne voyage plus, si cela nous conduira tous les uns et les autres au repli. Marie-Julie Gagnon, vous êtes partie à la rencontre de voyageurs Qu'est-ce qui vous a intéressé dans leurs expériences d'altérité?
En fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est toujours la même question. Hein. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher en voyage et qu'est-ce qu'on en retire vraiment? C'est toujours un peu... Je pense que la motivation du voyage influence aussi beaucoup la manière dont on voyage. Et on ne voyage pas non plus de la même manière à 20 ans qu'à 50, qu'à 60, qu'à 70 ans, avec des enfants ou avec des copains. Il y a plusieurs façons de voyager. Donc, j'ai eu envie, moi, en fait, d'aller recueillir un peu des témoignages pour mieux comprendre tout ça, mais aussi d'aller interviewer des experts, c'est-à-dire des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des gens qui avaient un regard, disons, un peu plus professionnel sur ces questions-là, qui pouvaient prendre aussi peut-être un pas de recul pour évaluer un peu comment tout ça se traduit dans le concret. C'était extrêmement intéressant de voir à quel point toutes les questions d'adaptation, hein, je pense d'ailleurs que les grands voyageurs se sont probablement mieux adaptés que bien des gens à la pandémie, parce qu'on est toujours constamment en train de s'adapter à quelque chose en voyage sur la route. Donc, je pense que c'est des questions qui étaient déjà intéressantes. Et là, avec la pandémie, ça prend un autre sens, en fait.
Ouais. Alors, il y a cette conductrice de bus dans la banlieue de Montréal qui se lance dans un voyage en solo. Il me semble que c'est au Maroc. Il y a cette femme qui part en voyage alors qu'elle ne supporte plus le manque de solidarité dans les pays riches. Alors, elle repart au Mexique parce qu'elle dit que là-bas, quand les gens vous disent « viens voir ma maison », eh bien, c'est sincère. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une forme d'idéalisation des voyages et des découvertes de l'autre?
Ah, mais tout à fait. Hein. Il y a plusieurs personnes aussi qui reviennent avec un plus grand trou dans le cœur, je dirais, que celui avec lequel ils sont partis, parce qu'effectivement, il y a des raisons, disons, qui sont peut-être un peu plus désespérées de partir que d'autres, ou alors pas forcément des raisons plus désespérées, c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais je pense aussi que, quand je parlais de motivation tout à l'heure, je pense aussi que tout l'aspect préparation aussi peut jouer un rôle important, et on a de grandes attentes parfois envers le voyage, qui ne sont pas toujours rencontrées non plus. Donc, est-ce qu'on on voyage pour justement... dans une espèce de quête, ou alors pour justement essayer de mieux comprendre qui on est, comprendre le monde, ou alors plutôt pour fuir des choses, parce que c'est une autre question. Ça, les voyageurs en ont tous un peu marre de se faire poser cette question-là. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mais je pense que c'est plus complexe que ça, et souvent, toutes ces raisons-là peuvent s'entremêler aussi dans une décision de partir. Puis bon, encore là, ça dépend aussi de la manière dont on va faire le voyage, et bien sûr, des rencontres qu'on fait sur place. C'est pas mal de choses qui peuvent influencer le cours des choses.
Alors, comme vous dites, hein, la manière dont on va faire le voyage, moi, je pense... à une bonne partie de nos auditeurs sur le continent africain, parce qu'il y a aussi le voyage contraint. Quand la pression sociale est trop forte en Afrique, les jeunes veulent, comme ils disent, tenter l'aventure au péril de leur vie pour se construire une existence en Europe, une existence qui d'ailleurs très souvent les déçoit, mais à laquelle ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas renoncer aussi par rapport à leur famille. C'est une forme de voyage aussi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que le voyage, à partir du moment où il est choisi, ça fait toute la différence. Hein. Il y a toutes ces questions-là, choisies dans un sens parce qu'on est privilégié, il ne faut pas se le cacher. Quand on voyage pour le plaisir, pour faire du tourisme, c'est parce qu'on a quand même une certaine situation de privilège dès le départ.
Mmh. 50% du tourisme mondial s'effectue dans l'Union européenne. C'est vrai que les Canadiens nous envient un peu les possibilités très larges de découverte au sein de l'Europe, non?
Ah oui, puis moi, je regardais justement, bon, en ce moment, David pourra peut-être en reparler, mais il y a toute la question des trains de nuit qui, tranquillement, deviennent de plus en plus populaires. Nous, vu d'ici, moi, ça me fait beaucoup rêver parce qu'ici, c'est très compliqué voyager en train, même si j'adore parcourir le pays en transport en commun, que ce soit les trains, les bus, je trouve toujours intéressant pour ce que ça nous... C'est un voyage dans le voyage, en fait. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est pas aussi simple. Le territoire est grand.
Là, vous êtes sous la neige, hein, Montréal, en ce moment.
Oui, à Montréal. Et quand je veux aller jusqu'à Vancouver en train, ça me met 4 jours.
4 jours?
Donc, déjà, ça vous donne...
4 jours en train?
J'ai fait quelques reprises. Oui, non, c'est ça. Donc, quand je voyage en Europe, je trouve ça fabuleux à quel point on a accès à tout rapidement. Et j'ai jamais compris pourquoi tout le monde prenait aussi souvent l'avion en Europe, d'ailleurs, alors que vous avez tout près. C'est extraordinaire de le découvrir par la route aussi lentement.
Ouais, David Medioni, ben vous avez rencontré l'Europe en prenant le Thalys. Hein.
Oui, le Thalys, pour moi, c'est vraiment le symbole même de l'Europe, de ce peuple européen si riche, de sa variété et en même temps de toutes ses composantes humaines et en même temps qu'il y a aussi beaucoup de choses en commun. C'est là qu'on s'en rend compte. En fait, les préoccupations sont les mêmes pour des Anglais, des Belges, des Français, des Italiens.
Enfin, il se passe plein de trucs dans le Thalys. En tout cas, ce que vous racontez, c'est déjà ça drague.
Oui, ça drague. Il y a l'histoire d'un photographe qui drague une petite femme BCBG, ils ont rien en commun, mais en fait ils trouvent plein de choses en commun. Il y a deux seniors qui partent en Angleterre et qui partent de tout leur voyage, qui partent à Bruxelles, qui viennent d'Angleterre et qui partent à Bruxelles, qui parlent de tout leur voyage. On a l'impression qu'elles sont des femmes d'affaires alors qu'elles ont 75 ans. Elles sont très très drôles. C'est vrai que en fait on se rend compte que dans le Thalys il y a cette diversité européenne et en même temps tout ce qui nous unit, nous les Européens.
Ouais. Le Thalys, il va au-delà de Bruxelles.
Hein, oui, bien sûr, il va jusqu'en Hollande, ouais, jusqu'aux Pays-Bas, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que je trouve dans le voyage, il y a aussi cette idée de hasard, quoi. Et c'est très, très important dans le train. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on cherche en voyage. Je ne sais pas si on cherche vraiment quelque chose. Est-ce que finalement, on ne cherche pas la sérendipité du voyage, le hasard, la rencontre, cette capacité finalement à se découvrir avec quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas imaginé. Je pense que c'est aussi ça peut-être qu'on cherche dans le voyage, en tout cas qu'on ressent dans le voyage, et c'est pour ça qu'on aime voyager et qu'on aime aller sur des sentiers qu'on connaissait pas. Je pense que le voyage vient en voyageant finalement.
Cet imprévu, vous l'avez beaucoup retrouvé dans les récits de voyageurs, Marie-Julie Gagnon?
Ah oui, tout à fait. Et franchement, mais en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui se surpréparent avant de partir par insécurité et qui, une fois sur place, se rendent compte où, ben, finalement, on se laisse porter un peu plus, alors que d'autres voyageurs, au contraire, se jettent vraiment dans l'eau froide, sans préparation, et réalisent en cours de route que, bon, peut-être qu'un minimum aurait peut-être été préférable, mais il y a différentes façons de l'aborder. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que ce qui fait la magie du voyage, c'est quand on se laisse l'opportunité d'être surpris. Si on prévoit tout, on a plus cette espèce les moments waouh qu'on peut vivre en voyage, les espèces de moments de grâce qui peuvent arriver seulement dans un contexte qu'on n'a pas prévu. C'est ça, je vous en parle et j'ai la chair de poule et j'avoue que ça commence à me manquer sérieusement.
Ah, vous voyez, vous aussi. Alors, ceci dit, l'univers du voyage n'est pas si tendre que cela non plus, Marie-Julie Gagnon, parce que d'abord, il y a les concurrences farouches entre routards. Plus c'est dur, plus le voyage a de la valeur. Ils se moquent de ceux qui voyagent en voyage organisé. Donc finalement, il y a une forme de pression sociale qui continue, de concurrence entre voyageurs. Et puis, évidemment, il y a Instagram et autres réseaux sociaux qui participent à cette forme de concurrence de l'expérience. Vous citez d'ailleurs une étude du Royaume-Uni qui affirme que près de 40% des jeunes de 20 à 35 ans choisissent leur destination en fonction de son rendu sur Instagram.
Ouais. Et j'ai interviewé entre autres une Québécoise qui est très très active, qui est devenue ce qu'on appelle une influenceuse, même si j'ai horreur de ce terme-là. Et elle me disait que carrément, elle a des témoignages de gens qui lui écrivent, qui lui ont dit « Ah, je veux aller prendre la même photo que toi à tel endroit. » Donc, on voyage plus forcément dans l'espoir de découvrir un endroit, une culture, mais pour se représenter soi-même dans cette culture-là, dans ce contexte-là. Donc, c'est là où il peut avoir quand même des dangers, du moins de ne pas vivre le voyage. Je veux pas dire qu'il y a de mauvaises raisons et de bonnes raisons, parce que je pense que chacun a des raisons qui le motivent et c'est très personnel. Mais disons, ce qui fait qu'on s'enrichit comme humain à la base dans un esprit d'ouverture et d'apprentissage, c'est complètement différent quand on se rend pour se représenter soi-même et que le monde devient une espèce de décor pour se mettre en valeur. Je pense que là, il y a quand même un grand, grand décalage avec les aspirations des gens qui partent justement avec un désir de quête et de se laisser surprendre.
Et que disent les psychologues? Est-ce que le voyage peut participer à une forme de thérapie pour prendre une distance émotionnelle avec les événements de la vie et pas seulement une fuite en avant? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les psys que vous avez interrogés sur les voyages?
C'était extrêmement intéressant de discuter avec eux parce que justement, ils ont, bon, bien sûr, ils ont chacun leur façon de percevoir les choses. Bon, il y a différentes écoles aussi dans tout ça. Mais une des choses qui ressortait, c'est il y a quand même des grandes généralités. On parle de la capacité d'adaptation qui est franchement, qui s'améliore franchement quand on voyage parce qu'on est constamment en mode. Moi, je compare souvent ça à un GPS, en fait. Vous savez, les fameux GPS, là, à une certaine époque, qui nous disaient toujours recalcule quand on change d'itinéraire. Je pense que le voyage, c'est un peu ce sentiment-là d'être constamment en train de revoir son itinéraire, sa façon de se déplacer. Et il y a un des psys que j'ai interviewé qui, lui, pour soigner des troubles, par exemple, des gens qui avaient les troubles d'anxiété généralisés, il recommande parfois à ses patients d'aller carrément en voyage, dans un cadre quand même assez sécuritaire et organisé, là, plutôt dans un contexte avec un guide, il sait où il s'en va et tout.
Voyage sur prescription, finalement, sur prescription.
Pour être confronté justement au fait qu'il est capable de se débrouiller en cas de problème. C'est un peu ça.
Et quelle est l'incidence des voyageurs sur ceux qui regardent le train passer, ceux qui ne bougent jamais, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays très touristiques?
Ah mon Dieu, ça serait une grande question aussi qui demanderait énormément de développement. Moi, ça c'est une de mes préoccupations, je dirais principale au-delà de l'environnement. On parle beaucoup d'environnement en ce moment, mais toute la question de l'incidence des voyageurs sur les populations locales aussi. Bon, on est en pleine pandémie. Est-ce que c'est plus important d'aller justement dans ces destinations-là parce qu'ils ont besoin de notre argent, parce qu'ils vivent du tourisme, et quand même de risquer justement de transporter un virus qu'on n'a pas souhaité? Ou alors, est-ce que mieux vaut protéger un peu tout le monde et rester chacun chez soi? C'est des questions en ce moment que je me pose beaucoup. Mais même avant, il y a toute cette question-là de quand on entre en contact avec des gens qui n'ont pas forcément le même vécu, forcément, on peut influencer aussi des choses qu'on n'aurait peut-être pas, qu'on n'aurait pas voulu. Il y a une des personnes que j'ai interviewées qui me disait, par exemple, le féminisme. Des femmes peuvent voyager avec un esprit très, très féministe. Moi, je m'habille un peu comme je veux. Je vais débarquer dans une culture et leur parler de féminisme, alors qu'eux, ils sont pas dans ces questions-là. Là, c'est pas quelque chose qui peut se frotter à leur valeur actuelle, du moins. Donc, il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas toujours, puis parfois, en pensant faire le bien, mais on fait l'inverse. Oui. Et c'est là où c'est délicat aussi d'arriver avec nos gros sabots, de débarquer avec vraiment nos propres références et valeurs et croire aussi que ce que j'appelle nos évidences, donc nos acquis, de penser que c'est la même chose, que c'est ce qui est le mieux pour tout le monde, parce que c'est pas le cas, en fait.
Finalement, le voyage réinterroge complètement nos universalismes, à partir de nos propres cultures. Vous restez tous les deux avec nous, Marie-Julie Gagnon à Montréal, David Medioni à Paris dans le studio de RFI des 7 milliards de voisins. On va voyager un petit peu plus lentement maintenant dans quelques instants avec vous, David Medioni et le train. Et en attendant, je vous offre une chanson dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Camini décrit de manière assez drôle le quotidien des habitants d'un village de Picardie, notamment du seul noir du village.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Perdeau. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait à Marly-Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants. Et parmi eux, une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père. On aurait pu laisser installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens. Il m'a répondu, hé, mais comment ça? Mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein. Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école. Et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Eh mon boulot, eh Pépito, eh mon boulot, eh le noir, eh. Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent gros comme vous, des mafieux bidons. Des fois ils t'aiment bien. J'aime pas les arabes, hein. Aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien, même si t'es noir. De temps en temps il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon moi je dis, tout est pour rien. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ah ouais sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tout 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas y'a rien, c'est les pâtures. Des fois y'a un match de foot le dimanche, le stade c'est une pâture. Sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké. Allez Kéké, allez Kéké. Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet.
Allez Biquet, allez Biquet.
Une journée type. Dans le coin, le facteur, un tracteur et un rien.
Ouais, celle-là, il faut la podcaster. Hein. Camini, Marly Gaumont. Vous la connaissiez, cette chanson, David Medioni, La France profonde?
Et non, celle-là, je ne la connaissais pas, mais elle est vraiment chouette. Elle est vraiment très, très chouette.
Être en train, c'est le titre de votre livre, Récits sur les rails et non pas voyager en train. D'ailleurs, est-ce qu'on est une personne différente quand on est assis dans un wagon?
Je crois que quand on est assis dans un wagon, on se recentre à la fois sur soi-même et en même temps sur les autres. C'est-à-dire qu'on va regarder les autres, on va les observer. Et donc, je pense que quand on est dans le train, on est dans un moment de pause finalement. Même si on va à 300 à l'heure, on est dans un moment de pause. Et donc, on accentue soit nos petits travers, soit nos grandes qualités. Et c'est ça qui est très très intéressant à observer les voyageurs de train, c'est que finalement, il y a des moments où on est des caricatures, on est le travailleur pressé, on est la personne qui téléphone tout le temps et qui parle très fort, et on est aussi finalement...
Ouais, ceux-là, ils sont vraiment exaspérants. Ou celles-là, d'ailleurs, aussi des femmes qui téléphonent beaucoup.
Là, en l'occurrence, c'était une femme que je raconte. Mais... Et donc, c'est vrai qu'on a ces petits travers et ces grandes qualités qui ressortent de manière peut-être un peu surlignée quand on est dans le train, je trouve.
Alors, on est dans un espace confiné et en même temps, il faut bien expérimenter le vivre ensemble. Hein.
Ah oui, ça c'est vraiment la relation avec le voisin de TGV. Il y a la bataille de la coudoir, il y a l'odeur de son voisin de TGV qui parfois peut être difficile à vivre. Il y a ce qu'il va manger, ce qu'il va dévorer. Il y a finalement cette relation à l'autre qui est sans préliminaire, si j'ose dire. Et donc, à partir de là, soit elle va être conflictuelle, difficile et ainsi de suite, soit elle peut être hyper jolie, hyper chouette, soit dans des échanges de regards, soit dans des discussions, soit dans des journaux qu'on va se prêter et sur lesquels on va discuter les uns avec les autres. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous à partir du moment où on a réussi à apprivoiser cette relation sans préliminaire que constitue finalement la relation avec le voisin de TGV.
Vos descriptions sont assez chirurgicales. Hein. Je prends un exemple. Dans un wagon, tous ne dorment pas, tous ne lisent pas, tous ne travaillent pas. Deux d'entre eux attirent le regard. Une femme d'abord, elle est rescapée du travail, elle lit « Comprendre son chat ». Elle est captivée. L'autre est un homme, la soixantaine, teint hâlé, cheveux dégarnis, grisonnant. Il y a quelques instants, il a eu sa femme au téléphone. Il lui disait être heureux de la retrouver. Mais avant cet appel, il lisait Midi Olympique. Et depuis, il dragouille gentiment sa voisine. Et lorsque je regarde doucement par-dessus son épaule, tandis qu'il joue avec son téléphone, eh bien, je vois que WhatsApp est ouvert. Il discute avec Aurélie. Celle-ci n'a pas froid aux yeux. Elle lui envoie des photos très suggestives d'elle. L'homme sourit. Voilà tout ce qui se passe dans un wagon de train en
oui,
France.
Oui, exactement. Et en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire à travers ces 52 voyages que j'ai effectués pour ce livre, c'est vraiment d'observer des vies qui s'écrivent, des vies qui s'inventent, des vies qui se déroulent sous nos yeux dans le train. Et si on prend le soin de les observer, on voit vraiment des choses magnifiques, à la fois drôles, à la fois coquettes, à la fois désuètes. On y voit finalement, je trouve, la société, son rapport au code vestimentaire, son rapport au travail, son rapport à la vie, aux autres. Et on y voit aussi l'individu dans ses petits travers, dans ses tourments intérieurs, dans ses doutes, dans ses...
dans ses contradictions
aussi. Et dans ses contradictions, exactement.
Est-ce que la France nourrit une relation particulière avec le train? Parce que c'est un pays qui s'est quand même construit autour du chemin de fer, avec la révolution industrielle. Il ne faut pas oublier aussi, je dis ça pour nos auditeurs, qu'il y a plus d'un siècle, enfin en tout cas plusieurs dizaines d'années, il y avait plein de villages qui avaient leur gare, leur ligne, et puis toutes ces lignes ont été fermées au fil des années parce que pas rentables.
Exactement, je pense que c'est aussi une des spécificités de la France, c'est d'avoir été un des pays, finalement on disait la France est la fille aînée de l'Église, peut-être qu'elle est la fille aînée du train aussi, c'est-à-dire que le premier transport de voyageurs, c'est en France que ça a été inventé, le TGV, c'est en France que ça a été inventé, enfin toutes ces choses-là ont été inventées en France, et effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup de villages qui ont été construits autour de la gare. Au départ, c'était la gare qui était à côté de l'Église, et il y avait la gare, et il y avait les villages qui se construisaient au fur et à mesure.
Et ça a changé le destin d'un bourg, par
ça
exemple.
A changé le destin d'un bourg, ça a changé le destin de différentes personnes qui habitaient dans ces bourgs, dans ces villages. Et c'est vrai que peut-être on a un peu oublié ces dernières années à vouloir finalement fluidifier et rendre plus rapide les liaisons entre les villes, ce qui est plutôt une bonne chose, On a peut-être aussi oublié notre spécificité française d'avoir justement une culture du TGV, une culture du train, une culture de la gare et une culture d'un village construit pour le train.
Alors globalement, les Français aiment leur train, sauf quand ça se passe pas bien, hein, sauf quand ça dérape, quand le voyage en train dérape, c'est-à-dire les fameux retards de la SNCF. Je sais pas si c'est la même chose au Canada, s'il y a beaucoup de retards de train ou pas. Marie-Julie Gagnon.
Je rigole parce que nous, c'est fois mille, je vous dirais, que déjà les trains, c'est horrible, nos trains, parce que nos trains de passagers ne sont pas prioritaires, c'est vraiment les trains de marchandises qui ont les rails en priorité, et ensuite les trains de passagers, alors on est constamment arrêtés, mais ça m'empêche pas de prendre de train.
Ouais. Alors, David Medioni, vous écrivez « Le caténaire est pour la SNCF le voyage en train l'équivalent de l'iceberg pour le Titanic, la chose qui fait tout capoter, même les rêves les plus fous ». Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un caténaire ?
Alors, un caténaire, c'est une des choses qui tiennent les rails électriques qui permettent au train de circuler. Et c'est vrai que quand un caténaire tombe, c'est l'apocalypse, quoi. C'est-à-dire que vraiment tout se passe mal. C'est-à-dire que les trains qui sont sur la voie ne peuvent plus circuler. En général, souvent, on est obligé de changer de train, de changer de rame, d'affréter des cars ou des bus pour transporter les voyageurs qui sont dans ce TGV. Enfin bref, c'est vraiment le problème ultime de la SNCF. Il y a même une cellule de crise à la SNCF qui regarde exactement comment marchent les caténaires, ainsi de suite. C'est vrai que parfois c'est en retard, mais globalement, il faut bien se dire que quand on voit le nombre de voyages chaque année, quand on voit le nombre de voyages chaque jour, le nombre de voyageurs transportés par les trains en France, finalement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Là vous faisiez allusion à un des passages du livre qui est titré « On se croirait sur Titanic ».
Plusieurs heures de retard.
Plusieurs heures de retard. On a dû sortir du TGV, prendre un bus, puis ensuite prendre des taxis. Enfin bon, c'était vraiment l'apocalypse. Mais quelque part, hormis ce voyage-là, et comme je vous disais, je fais pas mal de voyages en train quand même, ça se passe bien globalement. Ouais. Et c'est finalement une belle réussite. Je pense qu'il faut en être assez fier. Parce que
vous avez été payé par la SNCF pour votre...
Même pas du tout, non. La SNCF n'a même pas acheté de livre, donc c'est pour vous dire.
52 voyages en train pour vous, David Medioni, en France, en Europe, TGV, des trains régionaux, des trains de nuit aussi. Hein. Tout ça en prenant des notes. Ces fameux trains de nuit qui sont à la fois en voie de disparition et, paraît-il, en train de renaître, puisque le gouvernement a annoncé la remise en service d'une dizaine de lignes nocturnes nationales et internationales à l'horizon 2030. On va avoir dans les années à venir. On va voir revenir des Paris-Madrid, des Paris-Rome, des Paris-Malmö, des Paris-Vienne et puis des Paris-Nice aussi. Je crois qu'il reste quoi pour le moment? Le Paris-Toulouse?
Il y a le Paris-Toulouse, ouais.
Le Paris-Briançon.
C'est le Paris-Briançon qui va jusqu'en Espagne aussi. Il s'arrête jusqu'en Espagne, Paris-Toulouse et Paris-Briançon. Il en reste trois lignes en tout aujourd'hui, ligne de nuit. Moi, j'ai fait le Paris-Toulouse qui était hyper intéressant. Et puis, je crois que c'est aussi une façon de redécouvrir le voyage de manière lente.
Alors, vous êtes dans un wagon couchette, deux hommes, deux femmes.
Deux hommes, deux femmes. Alors après, on
ça
peut...
Ça promet.
Non, mais il s'est rien passé de sexuel, si vous faites ça, à quoi vous faites allusion. En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le voyage de nuit, c'est qu'on peut même réserver, quand on est une femme seule, on peut réserver une couchette où il n'y aura que des femmes. C'est vraiment un autre moment, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas le même voyage que pendant la journée. Les gens sont plus tranquilles. Il y a la magie de la nuit et la magie du train, en fait, qui se conjuguent.
Et le contrôleur lui-même vous dit qu'il aime être sur des trains de nuit. Hein,
oui, tout à fait. Le contrôleur que j'ai rencontré, lui, travaille que sur les trains de nuit parce qu'il dit que les voyageurs sont plus agréables, qu'il y a plus de rencontres qui se font, qu'il y a des choses très drôles, très, très rigolotes, très marrantes, notamment un de ses collègues qu'il avait retrouvé dans le lit d'une des voyageuses. Enfin, il raconte ça et finalement, il a des pépites dans les yeux quand il raconte, vraiment des paillettes dans les yeux. Il adore ça et il ne voit pas comment il pourrait travailler autrement aujourd'hui à la SNCF. C'est vrai qu'il a vraiment une passion pour les voyageurs de la nuit.
Être en train, finalement, on n'arrive pas à savoir si pour vous, David Medioni, c'est un temps pour les autres, pour comprendre les autres, pour être avec les autres, ou un temps pour soi, pour se recentrer sur sa propre intériorité.
Alors pour moi, c'est vraiment les deux choses. Hein. C'est vraiment cette idée, cette capacité qu'on peut avoir à rencontrer l'autre, à s'enrichir de la différence de l'autre. Vraiment, il y a vraiment cet aspect-là. Et pour peu qu'on sollicite une conversation, souvent, ça se passe très très bien et c'est très joli. Et ensuite, il y a vraiment ce moment de je vous dis, c'est un moment de pause à 300 à l'heure, le TGV. Et donc, en fait, ça nous permet vraiment de réfléchir à... au chemin qu'on a pris dans nos vies, est-ce que finalement on est vraiment fait pour être à 6h du matin en train de faire un tableau Excel pour une présentation qu'on doit faire à 9h chez le client, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un moment où on a la capacité de réfléchir sur nous-mêmes, on a la capacité de créer, on a la capacité de méditer, et puis tout simplement de rêver aussi.
Parce qu'il y a ce temps suspendu en train. Marie-Julie Gagnon, vous, votre meilleur souvenir de rencontre en voyage, ça serait quoi?
Oh mon Dieu, ben déjà j'ai rencontré mon mari en voyage, alors c'est sûr qu'il faut quand même que je le précise.
Dans quel pays?
À Taïwan, en fait, c'est un Sénégalais que j'ai rencontré à Taïwan. il y a maintenant plus de près de 20 ans.
Hein. Ah, formidable.
Donc, on est toujours ensemble à Montréal, ouais. Mais sinon, il y a tellement de rencontres. Mes rencontres les plus marquantes, en fait, je pense, ont été en voyage pour tellement de raisons. Et c'est vrai que les trains sont vraiment un lieu propice aussi aux rencontres, parce que justement, la lenteur fait qu'on a peut-être plus de temps pour se regarder, se parler. Non, franchement, il y a plusieurs rencontres ont été déterminantes dans ma vie, se sont faites en voyage, ouais.
Et pour vous, David Medioni, en train?
La rencontre en train la plus jolie, c'est une rencontre avec une personne qui m'avait demandé mon journal, qui parlait de Romain Gary. C'était un journal sur Romain Gary et on a discuté de Romain Gary et c'était une belle rencontre qui a duré juste le moment du train, mais c'était super parce qu'on n'avait pas forcément la même vision de l'auteur et on s'est enrichi de ces choses-là. Et après, la rencontre en voyage dont je me souviens et qui m'a beaucoup marqué, je sais pas si c'est ma plus belle rencontre, mais en tout cas c'est une rencontre marquante, c'est une rencontre que j'ai faite au Maroc alors que je me baladais dans l'Atlas et je suis tombé sur un Marocain qui habitait dans un petit village, qui a marché un peu avec moi, et c'était quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, et on a parlé de la laïcité, et de qu'est-ce que ça voulait dire de l'universalité, l'universalisme, et ainsi de suite.
Ouais. Au milieu des montagnes de l'Atlas.
Au milieu des montagnes de l'Atlas.
Ça vous pose une conversation, ça.
Exactement.
C'est sûrement davantage centré sur le dialogue. Et vous citiez Romain Gary, ben justement, moi je vais citer une phrase de Milan Kundera, que vous avez citée dans votre livre, Marie-Julie Gagnon, « Dans la vie est ailleurs », Milan Kundera écrit « Il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Pour vous, les promesses des prochains voyages, quelles seront-elles, David Medioni ?
Difficile à dire, cette phrase est très belle. Et moi, ce que j'écris dans le bouquin, et je pense que c'est comme ça que je le ressens, c'est que le voyage commence avant le voyage, comme dit Kundera, et peut-être au moment où on réserve les billets, peut-être au moment où on commence à se dire, tiens, cette destination, ça m'intéresse. Donc peut-être que c'est vraiment ça, la possibilité de partir à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça le prochain rêve et la prochaine idée de voyage.
Et en même temps, avec les menaces permanentes de confinement, les fermetures de frontières, toujours difficile de se réjouir en amont d'un voyage, Marie-Julie Gagnon.
Disons que j'ai un peu mis sur pause toutes les idées qui ont envie de galoper vers d'autres destinations et je vais être déjà très heureuse de pouvoir me promener au Québec et au Canada au cours des prochains mois. On a pu l'été dernier se balader un petit peu. Je pense que ce sera peut-être un scénario similaire cette année. Mais bon, je pense que le moment venu, je m'autoriserai à nouveau à m'imaginer un peu partout parce qu'effectivement, ça continue de me faire rêver tout autant. Mais disons que oui, effectivement, on n'a peut-être pas envie de se lancer dans de trop grands projets en ce moment.
Oui, mais vous allez bien finir par vous croiser tous les deux. Marie-Julie Gagnon, la Canadienne, David Medioni, français quelque part, dans un avion.
Qui
sait ? Espérons.
Vous restez avec nous tous les deux. Vous signez Marie-Julie Gagnon, Que reste-t-il de nos voyages ? Réflexion pour aller encore plus loin aux éditions de l'Homme. Et David Medioni, vous signez Être en train, récit sur les rails aux éditions de l'Aube. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, vous êtes d'accord ?
Oui, bien sûr.
On va retrouver plutôt un libraire, pas comme les autres, dans quelques instants, qui vend des livres et qui fait découvrir la littérature sans librairie, enfin pas tout à fait. Mais avant cela, une voix néo-zélandaise, Maori. Thank you. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, quand l'arrêt du tourisme mène à tout. Luc Pinto Barreto, 34 ans, martiniquais, avec un physique de mannequin, est devenu libraire itinérant en Seine-Saint-Denis après avoir travaillé comme agent de maintenance dans des hôtels palaces. En fait, il avait effectué cette reconversion avant la pandémie, mais on peut dire que le choix s'est avéré judicieux. Il s'est installé sur la place piétonne de la gare de Saint-Denis, où passent chaque jour 90 000 personnes. Raphaël Constant l'a rencontré dans son échoppe, librairie dealer de livres.
Donc on est à Saint-Denis, sur le parvis de la gare de Saint-Denis, très exactement, la gare RERD. Donc là, on est dans un conteneur que j'ai fait aménager en librairie.
Vous l'avez aménagé avec des pièces de bois, il y a un parquet au sol, du bois peint en jaune.
Et l'inauguration, l'ouverture de la librairie a eu lieu le 19 septembre 2020. Depuis, il y a toute la période du Covid aussi qui s'est invitée et avec laquelle il faut faire. Mais je suis très content d'être là. Même parfois, j'ai encore du mal à croire que j'ai réussi à faire cette reconversion professionnelle qui est encore fragile. Hein. Il faut continuer à travailler pour que ça se pérennise pour plusieurs années.
Comment tout a commencé ici à Saint-Denis ?
Ça part déjà d'une envie de changer de métier. Avant, j'étais technicien de maintenance dans l'hôtellerie jusqu'à début 2019 où j'en avais vraiment assez. Et la librairie, pour moi, c'est un outil pour faire de la médiation culturelle, on va dire. Proposer des ouvrages, des rencontres, des animations qui vont permettre d'interroger un peu la société dans laquelle on est, où tous les jours, il se passe des choses terribles comme aussi très admirables. Hein. Il n'y a pas que du négatif. Mais j'avais envie, avec tout ce qui pouvait m'animer au niveau de mes idées, d'être dans un métier qui puisse me permettre de développer des choses et pas simplement un métier pour vivre comme on peut avoir. Quoi.
Qu'est-ce que vous choisissez de vendre ici ?
Des romans, des essais, des bandes dessinées, des livres jeunesse, voilà. Après, au niveau des thématiques, soit autour du travail, des questions de la condition féminine, de l'école, de l'éducation, des ouvrages qui mettent aussi en avant les auteurs afro, que ce soit de la Caraïbe, de l'Afrique, des Amériques, d'Europe. Voilà ce qu'on peut y trouver un peu. Il faut que je trouve l'équilibre entre ce que moi j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie de mettre en avant, ce que je connais, ce qui me plaît. Et puis, en discutant avec les différents passants, apprendre aussi d'eux, voilà, écouter les recommandations qu'on peut me faire. Et voilà, ça se construit petit à petit. Des exemples de livres qui m'ont beaucoup plu là dernièrement, il y en a un que j'ai lu très récemment. C'est une bande dessinée qui s'appelle Chronique du 115, qui raconte en fait comment est né le SAMU social et qui nous explique aussi les mécanismes de l'exclusion. On se sent un peu impuissant face à toutes ces problématiques d'exclusion, de sans-abri, etc., des questions autour du logement. Et là, avec en plus le Covid, les choses se sont aggravées. Et j'avais envie de lire quelque chose là-dessus pour en connaître un peu plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dernièrement que j'ai lu ? Par exemple, il y a un livre que j'ai bien aimé là, dernièrement, Afropéa, de Leonora Miano. Donc sur toutes ces questions d'identité qui crispent un peu aussi notre société, que ce soit ici ou ce qui peut se passer ailleurs dans d'autres pays aussi, comment ça met un peu notre société en miroir.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
On a beaucoup parlé là, dernièrement du mouvement Black Lives Matter, avec les violences policières notamment et tout ce qui pouvait se passer aux États-Unis, tout ce que la société américaine peut connaître comme crispation, comment est-ce que ça interroge notre société à nous, française, sur ce qui peut se passer ici. Être libraire, pour moi, c'est aussi une façon d'être un peu acteur dans mon environnement direct, donc le quartier dans lequel je vis, déjà proposer un espace de rencontre et de discussion et voir ce qui peut en découler comme action, comme solution, que ce soit avec des anonymes, disons, des citoyens lambda ou des élus ou des gens qui sont peut-être aux responsabilités, voilà. Bonjour, bienvenue.
Monsieur, qu'est-ce que vous avez choisi comme livre ?
Le roman de Jasmine Ward et Blaise Nala dans le ventre du Congo. Ça parle de l'histoire tumultueuse entre le Congo et la Belgique, en gros.
Et vous venez souvent acheter vos livres ici ?
Oui, je viens de temps en temps. D'ailleurs, avec Luc, on en a parlé, j'avais dit que c'était une très bonne initiative d'ouvrir un lieu de culture à Saint-Denis, avec l'image que Saint-Denis a. C'est quasiment révolutionnaire.
C'est-à-dire ?
À part cette librairie, il n'y en a pas des
masses, il n'y en a qu'une.
Il y en a qu'une,
la librairie Folie d'encre qui a
beaucoup participé aussi à la création de mon projet.
Ouais.
Mais un lieu en plus, c'est toujours bien.
Ça pourra donner des idées à d'autres personnes ici dans le quartier. C'est quelque chose de bien.
Merci. Je vous souhaite une bonne lecture alors.
Merci beaucoup.
Luc, avant d'ouvrir cette librairie dans un conteneur à bateau, vous aviez un stand à l'extérieur avec quelques livres posés. Vous étiez là que quelques jours par semaine. Pourquoi vous avez fait ce choix qui est un choix militant, on peut dire, en faveur en tout cas du développement de la lecture ?
Je me suis dit, voilà, comment est-ce que je peux faire pour rendre le livre le plus accessible possible ? Peut-être d'une certaine façon décloisonner la librairie. Donc le plus simple, c'était d'être directement dans la rue, en fait, comme sous la forme des food trucks. C'était aussi l'envie de ne pas simplement être dans un quartier et puis se plaindre tout le temps de ce qui ne va pas, mais aussi comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire certaines choses en étant un minimum acteur de mon quotidien et pas simplement être là et puis subir mon environnement. Moi, ça me permet d'être en contact avec des personnes que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer autrement, soit des éducateurs, des enseignants, des élus, des gens du monde associatif. Voilà, et ça me motive plus que juste passer dans la ville, quoi, sans vraiment m'y enraciner, d'une certaine façon. Donc les personnes qui peuvent être éloignées du monde du livre, ce sera sur le long terme que j'arriverai à les toucher, en faisant des détours justement par des rencontres avec des auteurs, des artistes, des projections, du théâtre de rue, des choses qui ne sont pas forcément tout de suite liées à un bouquin. Et petit à petit, en mettant peut-être en place aussi un club de lecture, en travaillant avec des éducateurs, des éducatrices, des associations qui font de l'aide aux devoirs, ce genre de choses, par petites touches comme ça, on peut atteindre des personnes qui se disent non lectrices. Il se peut qu'un jour, sur le long terme, on puisse réussir à conseiller un livre qui donnera envie d'en découvrir un autre, et puis un autre, et puis un autre.
Luc Pinto Barreto, donc libraire, pas comme les autres, libraire dealer de livres à Saint-Denis. David Medioni, c'est aussi une autre façon de découvrir l'autre. Hein.
Complètement.
Sans voyager.
Ouais, sans voyager. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu sur Ernest aussi, le magazine en ligne littéraire dont je m'occupe, c'est que, en fait, pendant le confinement, ce qui est encourageant, quelque part, je trouve, c'est que les gens ont voyagé à travers les livres. Et que finalement, c'était vraiment à travers cette expérience sensible qu'est la littérature, qui nous permet de se mettre à la place de l'autre et de ce qu'il va ressentir, ainsi de suite, quand il est différent de nous. C'est aussi comme ça qu'on a voyagé, qu'on a découvert des pays, qu'on a découvert des réactions, des sensations, des personnages. Et c'est ça qui est très beau. Après, je trouve que c'est une super idée qu'il a eue, cette idée de décloisonner la librairie. Moi, ce que j'avais l'habitude de dire quand j'ai lancé Ernest, c'est qu'on en a marre des librairies où il faut chuchoter, quoi. Une librairie, ça doit vivre, il doit y avoir du bruit, il doit y avoir de la vie. Et en fait, c'est ça qu'il est en train de faire et je trouve ça fantastique, vraiment. Je trouve que c'est une super idée. Ouais.
Marie-Julie Gagnon, est-ce qu'au Canada aussi, avec le fait qu'il n'y ait plus de spectacles, de restaurants, etc., plus beaucoup de vie sociale, les gens se sont beaucoup recentrés sur le livre ?
Oui, tout à fait, ce qui est une bonne chose pour les auteurs, bien sûr, mais c'est aussi tellement, je suis d'accord avec David, c'est tellement une belle façon de s'évader, de voyager depuis son sofa, hein, donc c'est une merveilleuse possibilité de s'offrir le monde en parcourant les récits des autres. Les romans aussi nous font voyager, mais des récits de voyage, il y en a de fabuleux. D'ailleurs, moi, je vais me procurer celui de David à la première occasion, parce que je pense qu'on en a besoin alors qu'on est tous un peu... on est forcés à rester tranquille à la maison.
Oui, exactement. David Medioni, d'ailleurs, je vais vous offrir celui de Marie-Julie Gagnon. Que reste-t-il de nos voyages ? Réflexion pour aller encore plus loin aux éditions de L'Homme. Et David Medioni, on va envoyer votre ouvrage à Marie-Julie Gagnon. Être en train, édition de L'Aube. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, Marie-Julie Gagnon. Très belle journée à Montréal.
Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée à vous.
Et merci à vous, David Medioni.
Merci à vous.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi ?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Demain, 7 milliards de voisins, on s'intéressera à l'éducation des garçons. Plus souvent punis à l'école, c'est vrai, que les filles. Plus souvent en échec scolaire aussi, moins diplômés que les filles. En Europe, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient, la question de l'éducation des garçons a longtemps été négligée. Aujourd'hui, c'est le malaise qui domine. Comment continuer à œuvrer pour l'émancipation des filles sans brouiller pour autant l'identité masculine des garçons ? Comment les libérer d'un idéal viril, obsolète parfois, pour en faire des citoyens responsables ? On se retrouve demain.
« 7 milliards de voisins ». c'est fini.